Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
2 ans après le succès du film Papa ou Maman, la suite débarque en salle mercredi avec le même duo gagnant, Marina Foïs et Laurent Lafitte. Stéphane Boutsock les a rencontrés. L'année en 45 chansons, Anthony Martin nous présentera les hits RTL 2016, une compilation collector de 3 CD que nous vous offrirons au 3210. Les choix télé d'Isabelle Morini-Bosque, le démarrage sur TF1 de la 13e saison d'Une famille formidable, j'ai bien dit 13e saison, et sur M6, un documentaire à ne pas rater, Renaud en plein cœur, consacré aux chanteurs toujours debout, toujours vivants, sans oublier les express de Laissez-vous tenter, distillé pour nous par Charlotte Arrigoni.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter.
Mais en premier lieu, je me tourne vers vous, Monique Younès, bonjour.
Bonjour.
Nous avons appris hier la mort d'un des plus importants auteurs de bande dessinée français, Marcel Gottlieb, nous a quittés. Il avait 82 ans et on lui doit des chefs-d'œuvre de drôlerie que furent Les Dingos d'Ossier, La Rubrique à Braque ou encore Guéluron et Super Dupont.
Mais oui, Gottlieb était un génie comique qui faisait de la bande dessinée, provoquant le rire à chacune de ses cases avec des théories scientifiques comme la cloutologie qui lui aurait valu le prix Nobel de la déconnade s'il avait existé.
Dites-moi en quoi ça consiste la gloutologie.
La gloutologie, la théorie de Gottlieb repose sur un principe. Dis-moi comment tu plantes un clou et je te dirai qui tu es.
Ah oui.
Révolution copernicienne dans l'éthique du bricolage, vous convenez. Mm-hmm. Alors plus sérieusement, Gottlieb a été le premier auteur de bande dessinée à être reconnu dans la rue pour la bonne raison qu'il se dessinait souvent assis sur un trône, une couronne de laurier sur la tête. Mais son grand plaisir, c'était de surprendre les gens pliés de rire en lisant ses bandes dessinées.
Mais ça, c'est un régal. Il n'y a que les artistes sur scène qui peuvent ressentir un feedback de ce genre. Parce que là, c'est comme si j'avais été en spectacle. Parce que le gars, il riait. Il riait, mais il riait pas de moi, il riait de ce que j'avais fait. Mmh. C'est vraiment un grand moment.
L'influence de Gottlieb est énorme sur les humoristes des années 70, 80 et 90. Sans Gottlieb, pas de Coluche, pas de Guignol de l'info. Sans Gottlieb, pas de Charlie Hebdo. Et s'il adorait dessiner sa coccinelle timbrée, son Guéluron lymphatique ou son pervers pépère, il aimait aussi raconter des histoires salaces dans Ralovli et Ragnagna, devenus des manuels d'éducation sexuelle pour beaucoup, beaucoup d'adolescents des années 70.
J'en atteste. Il a été vite célèbre, Gottlieb.
À 32 ans, avec Les Dingos d'Ossier qu'il a créé en 1966 avec Gossier pour le journal Pilote, une rubrique hilarante sur la vie quotidienne, la télé, la radio, la mode. Gottlieb avait trouvé en Goscinny un père de substitution, son père ayant été déporté en 1942 alors qu'il avait 8 ans. Gottlieb l'a vu se faire arrêter à Montmartre où ils habitaient et ça l'a marqué à vie. Gottlieb portera l'étoile jaune avant d'être placé chez une famille à Vigneux-sur-Seine. Mais quand il en parlait, c'était toujours avec humour.
Si vous saviez comme j'ai souffert quand j'étais enfant. Les gens s'en rendent pas. Non, mais je déconne là. Non, mais je veux dire, je suis pas le seul. Quand quelqu'un vient à la radio ou à la télé et qui parle de ces moments très tragiques qu'il a vécu, faut pas oublier qu'il y en avait beaucoup d'autres qui gardent ça pour eux.
Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, hein, Monique. Quel homme était-il finalement ?
Alors, mis à part le fait qu'il était le plus doux, le plus tendre, le plus humble des hommes, c'était aussi un puits de science. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était le plus angoissé des créateurs. Chacune de ses planches lui coûtait d'extravagantes crises de panique, comme s'il avait à la fois une grande conscience de son génie et la crainte de ne pas être ce jour-là à la hauteur. C'est d'ailleurs ce qui le poussera à arrêter de dessiner en 1984, prétextant qu'il en avait déjà trop fait. Et à force de passer de la Gauloise à la Gitane, il avait attrapé une maladie pulmonaire. Il est mort hier, chez lui, dans les bras de sa fille unique Ariane, qu'il adorait. Ce père inquiet aura donc rassuré des générations de lecteurs qui ont cru, grâce à lui, que la vie était drôle.
Et comme tous les gamins qui ont lu ces bandes dessinées, j'ai aussi perdu un ami. Merci Monique Younès. Dans un instant, nous parlons cinéma avec Stéphane Boutsock. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi. Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
C'est lundi matin, ça s'entend.
Bien sûr.
Kenji Girac va rejoindre la troupe des Enfoirés, c'est une information RTL.
Kenji Girac, 20 ans, a déjà sorti 2 albums. Le vainqueur de The Voice 3 en a vendu 2 millions d'exemplaires en France. Et sa tournée, qui attire les foules, se terminera à Paris-Bercy le 10 mars prochain. Mais d'ici là, on le retrouvera donc dans la troupe des Restos du Cœur, concert enregistré fin janvier prochain à Toulouse. Une mission enfoirée qui enchante évidemment le jeune chanteur.
C'est vrai, ça fait 2 ans qu'on passe tout le temps à côté et là, on va pouvoir le faire. Ouais. C'est quand même important pour la cause, pour aider les gens. Et je suis content d'y être. La solidarité, ouais, on peut arriver toujours plus loin quand on est ensemble. Quand je regardais tous ces artistes, je me disais que jamais j'allais rencontrer un jour. Ouais, c'est sûr que ça fait rêver quoi, voir tous ces chanteurs. Et en plus, c'est des spectacles qui sont jolis, tout le monde chante, on voit tout le monde, c'est vraiment chaleureux.
N'aie pas peur d'enfiler des costumes un peu ringards et rigolos, vous allez être bizuté.
Ah, ça, si, un petit peu, mais bon, après, on verra là-bas.
Qui était au micro RTL de Steven Bellery.
Et de son côté, Eddie Mitchell prépare son prochain album.
Alors qu'il vient de publier l'enregistrement live de ses concerts Big Band au Palais des Sports, le chanteur pense déjà à la suite. Il partira au mois de juin en tournée avec les Vieilles Canailles et il entrera en studio à Los Angeles dans les prochaines semaines. Eddie Mitchell prépare en effet un album de reprise de ses succès en duo avec ses copains chanteurs. Il en dit plus sur ce projet attendu à la rentrée 2017.
Ce sont mes standards, mais avec des gens complètement intéressants. Bon, il y a des inévitables, hein, je vous le cache pas. Il y a Dutron, il y a Johnny. Il y a aussi Julien Clerc, il y a Véronique Sanson, il y a Souchon. Je suis ravi de chanter avec eux parce que c'est des gens que j'admire aussi. Hein. Eux amènent une touche complètement nouvelle que moi j'ignorais parfois. Parce qu'il y a une chanson que j'avais faite en duo il y a très très longtemps en télé, qui était J'ai oublié de l'oublier. Et on l'avait chantée en duo avec Julien Clerc. Et Julien, avec sa voix extraordinaire qui vient de chez Padoue, avait trouvé un timbre formidable. Mais là, on l'avait fait comme ça pour rire en télé, quoi. Mais là, on va vraiment la fignoler.
Je sens que ça vous excite, ce projet.
Oui.
J'ai oublié de l'oublier, mais j'ai voulu me prouver qu'il m'était impossible.
Eddie Mitchell en exclusivité au micro RTL de Steven Bellery.
Alors, si vous n'avez pas encore vos billets pour aller voir Les Insus, il reste une chance, hein.
Oui, 30 ans après la séparation du groupe originaire, leur concert intitulé « Dernier appel » fait vibrer les fans. En seulement 12 jours, les anciens téléphones ont vendu 80 000 billets pour remplir le Stade de France. Si bien que les Insus ont décidé d'ajouter une deuxième date à Saint-Denis, au Stade de France. Donc, notez bien, ce sera le samedi 16 septembre 2017. La location pour cette nouvelle date ouvrira demain.
Samedi 16 septembre 2017. Merci beaucoup Charlotte. C'était Les Express de Laissez-vous tenter. Presque 10h. On passe aux audiences de notre week-end avec vous, Isabelle Morini-Bosque.
Elles sont classiques. Vendredi, Koh-Lanta devant 2 flics sur les docks, mais la spéciale Téléthon rassemble tout de même 1 400 000 téléspectateurs sur France 3. Samedi, Danse avec les stars, TF1 devance Magellan, la 3 de 192 000 téléspectateurs seulement, 4 400 000 contre 4 millions 2. Et hier, résultat logique, Gravity est en tête devant Inglourious Basterds, 5 300 000 contre 3 800 000. Et voilà.
Inglourious Basterds.
Ah oui, non, vous avez un meilleur accent anglais que moi, ça c'est évident. On va parler cinéma maintenant avec vous, Stéphane Boutsock. Il y a presque 2 ans,
mais oui,
le film Papa ou Maman crée l'événement et la surprise au box-office en attirant près de 3 millions de spectateurs dans les salles. La suite, logiquement intitulée Papa ou Maman 2, Zwein en allemand, sort mercredi au cinéma. Vous avez rencontré le couple d'acteurs qui, une nouvelle fois, va se déchirer à l'écran, en l'occurrence Marina Foïs et Laurent Lafitte.
Alors, il y a une variante. Dans le premier épisode, ils imaginaient les pires astuces pour ne pas avoir la garde de leurs enfants après le divorce. Cette fois, ils vont imaginer les stratagèmes les plus tordus pour dégoûter ces mêmes enfants qui ont très envie qu'ils se remettent ensemble alors qu'ils ont, elles comme lui, refait leur vie. Plus court, plus sauvage, plus cruel, mais plus tendre aussi, cette suite est une vraie réussite. Les deux comédiens, Marina Foïs et Laurent Lafitte, tente d'abord d'analyser les raisons du succès du concept Papa ou Maman.
On est un peu dans les mêmes codes depuis un petit moment quand même, et dès qu'on s'éloigne un peu de ces codes ou dès qu'on les tord, je pense que ça fait plaisir au public si le résultat est réussi. Après, moi j'aime pas trop quand on résume le film au mot trash ou à on s'amuse à faire du mal aux enfants. C'est pas ça le film, et encore moins le 2 d'ailleurs.
Je serais mal placée pour analyser un succès, puis je pense qu'il y a des malentendus dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on fait des succès à des navets, on inflige des bides à des chefs-d'œuvre, etc. Donc n'en tirons aucune gloriole et aucune conclusion. Le film, il a quelque chose d'exutoire, hein, c'est-à-dire qu'on s'autorise à penser et à faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie, et qu'il y a un truc d'identification qui est évident. Les personnages se retrouvent juste en pleine crise de la quarantaine, à un moment de burn-out familial. Ils ont envie de liberté. C'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se reconnaître, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas, pour des raisons économiques, éthiques, morales, ne peuvent pas s'autoriser. Légal. Les personnages se l'autorisent.
Deux films au ton acide et drôle sur la famille à la fois recomposée et décomposée, donc sur un autre modèle possible, au moment où cette thématique, celle de la famille, donne lieu à des débats assez tendus en France. Faut-il y voir un message sur l'air du temps ?
C'est quoi une famille ? Qu'est-ce que c'est une famille ? C'est-à-dire qu'il y a un schéma idéal de famille auquel tout le monde doit se conformer. Enfin, c'est... Et quand les gens disent « la famille est menacée », c'est quoi menacer une famille ? Moi, à part rentrer avec un flingue dans une maison où, dans laquelle il y a effectivement une famille, je ne vois pas en quoi la famille est menacée, puisque de toute façon, la famille, c'est un choix individuel. Je veux créer une famille ou pas, je veux marier ou pas, je veux divorcer ou pas, je veux des enfants. À partir du moment où on est dans le choix individuel, je comprends pas où est la menace quand on élargit et quand on donne aux gens la possibilité de créer la famille dont ils rêvent.
En général, on descend dans la rue pour quelque chose. Là, on descend dans la rue contre, pour empêcher à d'autres d'avoir accès à quelque chose. Se sentir menacé, il faut être très très fragile sur son sens de la famille pour avoir peur pour soi quand deux autres font différemment. Ils doivent s'interroger beaucoup sur leur désir et leur mouvement intérieur, les gens qui sont si farouchement contre. C'est absurde.
Alors un mot aussi Stéphane sur ce tandem de comédiens qui semble une nouvelle fois parfaitement s'accorder à l'écran.
Séparés à l'écran, très unis par l'amitié à la ville, Marina Foïs et Laurent Lafitte se connaissent en fait depuis les années 90 et leur apprentissage théâtral au cours Florent. Question toute simple, qu'est-ce qui vous a plu chez elle et chez lui ?
C'est hyper simple, il m'a plu parce qu'il m'a fait rire terriblement, à en crever, depuis très longtemps, très régulièrement. Maintenant, c'est difficile de dire ce qui nous lie, parce qu'on a traversé une grosse partie de la vie.
Ah ben toi, plus, un petit peu plus.
Quoi qu'il en soit, notre amitié, elle est faite de plein de choses. Ce que je peux vous dire pour là, parce que je ne vais pas parler pendant 6 jours, mais c'est qu'on a traversé une demi-vie, donc, des grandes joies, des grandes douleurs, de la merde, des questionnements, des feux d'artifice, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. On n'a jamais cessé de rire, donc... Voilà, c'est ce qui nous lie, je pense.
Là, franchement, je peux rien dire de plus. Mais c'est pas un secret, hein, c'est la vie, quoi. C'est pareil pour tout le monde. C'est pas une recette. Après, nous, il se trouve que ça passe beaucoup par le rire, mais pas que ça. Le rire qui est mis à l'épreuve de situations aussi parfois difficiles. Je sais pas si c'est une philosophie, mais c'est un fonctionnement instinctif qu'on partage.
Papa ou maman 2 de Martin Bourboulon, ça sort mercredi au cinéma. Il y aura peut-être un 3, ils m'ont dit que pour faire un 3, il faudrait peut-être qu'ils couchent ensemble vraiment dans la vie.
Ah oui, voilà.
Bah écoute, on va sexualiser les choses.
Je vous confie ce dossier.
Bien sûr, je vais suivre.
De première bourre, si vous m'autorisez l'expression.
Alors, on va passer à notre soirée télévisée avec vous, Isabelle Morini-Bosse. On commence par une famille formidable que j'ai l'impression d'avoir toujours connue sur TF1.
Pas faux, pas mieux, puisqu'une famille formidable existe depuis bientôt 25 ans. Une année de tournage, une année de diffusion, donc début ce soir, vous l'avez dit, de la 13e saison. On y retrouve la famille Beaumont avec toutes les pièces rapportées. Une famille, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, tantôt décomposée, toujours recomposée, mais habituée à composer, qui finit toujours par se rabibocher, se rafistoler, se rapprocher autour de Jacques, le cuisinier, un grand toquet, et Catherine, l'ex-médecin. Mmh. Ils sont toujours joués par Annie Dupuré et Bernard Lecoq, encore plus complices dans la vie qu'à l'écran. La preuve, quand je leur ai fait remarquer, si on vous avait dit, il y a 25 ans, que vous seriez toujours là aujourd'hui...
Vas-y, bah dis quelque chose, toi.
On ne savait pas.
Non, mais c'est, les choses se font comme ça. On travaille, on raconte des histoires, et puis à un moment, des spectateurs les voient, et puis ils sont contents, en tout cas, à peu près, et puis on met le couvert, en général. Chaque année, on est toujours un peu dans le stress, parce qu'on se dit, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont moins aimer ça.
Mais ça, c'est un métier qui conserve.
D'autre part, dans la mesure où, finalement, si on raconte des histoires du quotidien, et qu'on se retrouve à 95 ans, et qu'on est à peu près en forme. Ils pourront toujours nous utiliser, oui. Même si on se rappelle plus bien des mots.
J'ai utilisé souvent, ils peuvent utiliser le fauteuil roulant comme travelling.
C'était le plus facile à faire.
C'est une économie de matériel.
Donc on est moins inquiet pour l'avenir de ce point de vue-là. En tout cas, c'est lamentable, je le sais.
Voilà. Ils sont formidables d'aborder ça comme ça.
Je les aime profondément. Voilà. Même quand le scénario s'effiloche, le public reste fidèle à cette famille de compléments où on ose le dramatique, il y a un mort en fin de saison, et le comique. L'épisode commence par Catherine et Jacques tenant un food truck, ce que j'appelle moi un camion bouffe, sur la plus grande place de Lisbonne, ça marche bien, trop peut-être.
Ah, monsieur, on ne sert plus.
Je viens pas pour ça, je suis Gilbert Mercier. Vous voyez le restaurant là-bas?
Oui.
C'est mon établissement.
Oh, bah, cher confrère, je suis ravi de vous rencontrer. Bon,
écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous pouvez pas continuer à garer votre fourgonnette devant chez moi.
Ma fourgonnette, comme vous dites.
Voilà. La suite sur TF1, c'est drôle parce qu'en face, sur C8, démarre l'amour food avec des grands chefs qui cherchent l'amour, c'est chou.
J'ai été surpris par la chute, excusez-moi. Oui. Alors nous allons signaler maintenant sur M6 le beau document consacré à Renault.
Sur Renault et avec Renault, il est en confiance avec l'auteur Didier Varro qui avait déjà signé Renault, les rouges et le noir en 2002 et Renault en t'a dans la peau en 2015. Là c'est Renault à plein cœur. C'est un beau doc dans lequel Renault se livre et se délivre. C'est aussi l'occasion d'entendre ce qui n'aime ni paraître ni apparaître comme sa première femme Dominique, là extrêmement émue.
Je suis heureuse de participer à cette émission-là. Parce que vous parlez de la scène et... Et la scène, je sais que ça le sauve, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai compris, ça y est, j'ai arrêté d'imaginer qu'il va guérir, qu'il va y avoir un miracle, qu'il va plus jamais boire, que c'est pas possible. Mais par contre, s'il garde son identité, qu'il écrit ses belles chansons, qu'il les chante sur scène, et voilà, tout, ça va. Il existe, il est bien, et il est comme tout le monde. Il y a des jours où il est triste, il y a des jours où il... Mais il vit, voilà. Et c'est la seule chose qui c'est sa colonne vertébrale, quoi.
Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crouillon qui voudra m'enterrer.
Voilà, 20h55, M6, un très beau document. Et n'oublions pas sur Canal+, Working Girl, en deuxième partie de soirée, cette série déjantée qui montre des femmes au travail, jusque-là dans l'univers industriel. Elles investissent dès ce soir un autre univers, celui de l'hôpital, et c'est franchement très saignant. Là, on retrouve l'ex-DRH Laurence Arné, nympho, face à un patient.
Alors, vous venez pour l'ablation d'un nodule thyroïdien. Donc, pas d'allergie, non-fumeur. Bien, on va prendre l'attention. Vous enlevez votre veste et votre chemise, s'il vous plaît. Votre pantalon aussi.
Pour l'attention ?
Je suis médecin, monsieur. Et la culotte. Alors, voilà. Cette tension.
On la redécouvre en culottée, très déculottée.
Écoutez, on voudrait vous rencontrer plus souvent des Canal médecins comme plus. Ça. Alors, bon, très bien, dans un instant. Bon, bah, pas vous, mais dites donc. Aucun point de vue sur ces questions-là. Alors, dans quelques instants. Non, je vois aucun témoignage. Avec mon camarade Anthony que vous venez d'entendre, bon, on va vous parler de la compile. Hein. Allez, ouais, à tout de suite. Voilà. Allez, RTL 2016.
Avec la culotte.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
On termine en musique avec vous, Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Tout au long de la journée sur l'antenne, on entendra donc des titres extraits de la compilation qui vient de sortir. Elle est intitulée Les Hits RTL 2016 et il s'agit d'un triple album qui rassemble tous les tubes de l'année.
Oui, 45 chansons. RTL vous propose la photo musicale de l'année. Alors chaque année, vous savez, on aime des chansons qu'on entend beaucoup, mais on retient jamais le titre ni le nom de l'artiste. Mais ce qui est génial, c'est que tous ces tubes de 2016 sont là. Celui-ci, par exemple. Cave by the Ocean de DNC, un autre. Charlotte Arrigoni fait sa gym du matin sur Madcon, don't worry. Non, c'est Madcon. Ah, bah, alors là, voilà. Autre tube 2016, autre chance, Charlotte, sur notre compile, celui de V. Hafner. Sa Castle in the Snow de V. Hafner. Et le morceau le plus vendu de l'année est là aussi dans la compil RTL Girls de Kungs. Sont également présents dans cette compilation 2016 des piliers comme Renaud, Johnny Hallyday, le dernier inédit de Julien Clerc, une chanson de Julien Doré et puis un des plus grands succès de l'année. La chanson Encore un soir écrite par Jean-Jacques Goldman, tube de Céline Dion, qui côtoie un extrait de l'album de Souchon Voulzy et un extrait d'un des plus beaux disques de l'année, celui de Benjamin Biolay.
Smith, je t'ai dans la peau tout entière, tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste, je me rapproche de la terre, mourir c'est trop.
C'est autre chose.
Oh, c'est un de mes albums préférés, oui. Tout entier. Mais je le suis depuis longtemps, je l'aime beaucoup, ça, Benjamin Biolay, ça c'est vrai.
45 chansons en tout dans ces Hit RTL 2016, tout le monde y trouve son bonheur. Tenez, on va faire un tour de table. Isabelle, quel titre avez-vous choisi?
Moi, Just Jonathan Vianney, Les filles d'aujourd'hui.
Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps.
Charlotte Arrigoni, c'est à vous de choisir.
J'ai choisi Cheap Thrills de Sia.
Baby,
bien pour votre gym, bah ça
oui,
aussi.
Oui, oui, je choisis toujours de la musique de gym. Et vous écoutez beaucoup Fun Radio aussi, vous, visiblement. Hein.
Exactement.
Et ben voilà.
Le son dance floor.
Stéphane Boutsock, c'est à vous.
Moi, j'ai choisi la pop euphorique et naïve de Coldplay avec Him for the Weekend.
Pas de doute, le chanteur de Coldplay s'est chanté. Hein.
Alors, tout vous, fait... Yves, vous avez choisi quelque chose?
Alors, oui,
Renaud.
J'avais choisi Renaud.
Bah oui, c'est
mais
ça.
Je savais pas que j'avais au même.
Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré. L'idiot qui voudrait nous remplacer.
Vous savez que c'est notre artiste RTL de l'année. Donc,
et oui.
Puis on a fait une interview et une belle rencontre avec lui.
C'est donc, vrai, voilà, c'était tout très émouvant.
Créer des souvenirs qui étaient extrêmement plaisants. Tout est rassemblé donc dans ce triple album, les Hits RTL 2016, que nous vous offrons maintenant. Il faut pour cela faire vite au 3210. Vous nous appelez pour répondre à la question qu'Anthony vous pose séance tenante.
Qui a écrit la chanson Encore un soir de Céline Dion? Hein, voilà, chanson qui est dans la compile des Hits RTL 2016.
C'est pas du tout reconnaissable comme style.
Pas du tout.
Allez, 32
mais toujours 10. Très efficace.
Ah oui, ça, c'est, y a pas de doute. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Encore un soir. Encore une heure. Encore.
Cher Anthony Martin, auriez-vous l'amabilité de nous dire qui est l'auteur de cette chanson interprétée par Céline Dion?
JJG, Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques Goldman, vous avez appelé au 3210 et donc vous avez gagné cette compile des Hits 2016 publiée par RTL. Merci à toute l'équipe d'avoir passé cet excellent moment avec nous et on va retrouver tout de suite un petit peu en avant, Julien Courbet.
Ça va?
Bah oui, vous.
Bah écoutez, heureusement que j'avais cette application, dis donc, samedi soir. Hein. Ma femme est rentrée à l'improviste, j'étais au lit avec deux nanas. Elle m'a trouvé là, elle m'a dit bon, d'accord, j'ai compris. Et je lui ai dit non. J'ai sorti mon application Ségolène Royal. Et c'est une application qui permet de dire non, il n'était pas du tout avec deux filles dans le lit. Et donc elle m'a dit ah bon, ok, ça va. Alors c'est une application qui permet comme ça de voilà de faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. C'est ça qui est formidable.
Avec vous, c'est que je sais comment vous commencez, je ne sais jamais comment ça va se terminer. Je pense que c'est ce qui nourrit notre couple. Oh, de radio.
C'est exactement ce que m'a dit Madame Calvi qui faisait partie des deux. Des deux filles dans le lit.
Bon, c'est donc ça.
Eh bien, nous allons donc démarrer cette semaine dans la joie et la bonne humeur.
Absolument.
Félicitant pour cette belle matinale info, féliciter toute l'équipe aussi.
Allez, bonne émission.
On y va, c'est parti.
Vous écoutez RTL.